OK, oui, on jase à l'émission On en jase, midi 45 exactement. On vous parle d'actualité, on vous parle des grands enjeux. On tente de vous parler des enjeux qui sont ici à Québec. D'ailleurs, Mathias Turcotte va nous faire un excellent dossier tout à l'heure aux alentours de 13h30 sur les portes des commerces ouvertes dans le Vieux-Québec en hiver. On laisse les portes ouvertes pour que les gens rentrent. Et là, il y a des citoyens qui disent « Ben non, non, Hydro-Québec a me dit de partir mon lave-vaisselle à 1h du matin. »
Puis la porte est ouverte à moins 20.
C'est ça! Donc, il y a des citoyens qui se plaignent. D'après moi, ces citoyens-là, ils veulent plus de commerce dans leur quartier. Mais bon, c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure. Mais là, évidemment, on va parler, Pascal, parce que ça brasse pas à peu près en Iran. Plein de frappes qui ont été faites par les États-Unis et Israël. Des répliques également. On attaque le Liban. Donc, bref, c'est vraiment une véritable poudrière présentement au Moyen-Orient. Et qui de mieux pour nous parler de ceci qu'Éric Ouellet, qui est professeur titulaire au département d'études et de la défense au Collège des Forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. En effet, ça brasse beaucoup en ce moment. Ouf.
Est-ce que c'est quelque chose auquel vous attendiez en fin de semaine ou vous dites que ça dépasse un peu l'entendement?
Je dois admettre que ça m'a surpris que les Américains attaquaient, mais avec le recul, les signaux étaient là. Il fallait les avoir lus plus, de façon plus précise.
Ça faisait au moins 2 semaines, en fait, que c'était attendu. C'est ce qu'on comprend là, au niveau de l'Europe, entre autres. On se grouillait là-dessus. Ça fait quelques mois, on a ramené les services militaires. On voyait que l'instabilité était plus profonde qu'à l'habitude.
Oui, mais aussi la montée en puissance des forces américaines avait commencé déjà depuis le mois de décembre. Donc, il y avait déjà des signes qui se préparaient à mettre de la pression énorme sur l'Iran. La question, c'était jusqu'à quel point ils allaient tolérer des négociations là, qu'elle est nulle part avec les Iraniens avant de passer à l'attaque. Clairement, M. Trump a très peu de patience.
Donald Trump n'a pas exclu aujourd'hui en conférence de presse l'envoi de troupes au sol. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Éric Ouellet, qui est un spécialiste à la matière?
C'est une annonce, je dirais, au cas où, mais je pense qu'il n'y a pas de troupes en grande quantité qui sont prêtes à passer à l'action. Là, ça prendrait des semaines avant de monter en puissance pour de forces terrestres. Je pense plus que c'est peut-être dans le cas où on enverrait les Marines, par exemple, pour prendre le port de Bandar Abbas, là, qui est dans la partie nord du détroit d'Ormuz, pendant quelques semaines pour faciliter le passage des navires. C'est des opérations relativement limitées, mais je ne peux pas imaginer un scénario où on répète l'invasion de l'Irak. Ça prendrait de nombreuses semaines avant de monter les troupes américaines pour être capable de faire ça.
On entend tout et son contraire en ce moment, assurément parce que c'est un peu imprévisible, hein, la réplique de chacun là-dedans. La façon d'organiser les répliques au niveau de l'Iran, c'est plus émotif, c'est plus revanchard au niveau d'Israël. Les États-Unis ont encore la possibilité de discussions diplomatiques, disons-le comme ça. Mais on doit craindre quoi le plus là-dedans? Ce sont peut-être les États-Unis qui vont vouloir avoir l'ego d'être encore une puissance mondiale et de le démontrer, ou encore l'idéologie islamique au sein de l'Iran et de ses alliés qui a des groupuscules terroristes quand même comme alliés?
L'Iran est très affaibli depuis les dernières 2 années, là, en particulier avec les frappes israéliennes du mois de juin, et aussi la perte de leurs alliés là, en Syrie, le Hamas, le Hezbollah qui sont très diminués, les Houthis qui aussi sont beaucoup plus prudents dans leurs activités. Donc, je pense pas que ça va rajouter ou augmenter la mouvance islamiste ou les renforcer. C'est possible que les Américains fassent affaire à une situation où l'Iran ne capitule pas malgré des destructions massives et il n'y a pas non plus de révolte populaire. Et là, c'est vraiment pour sauver la face. Ils vont peut-être être dans une situation plus délicate d'un point de vue politique.
C'est une des raisons pourquoi les États-Unis, justement, attaquent au Liban également via Israël. C'est pour affaiblir également le Hezbollah, donc pour prendre vraiment le contrôle du Moyen-Orient en tant que tel, ou à tout le moins de protéger davantage Israël.
Oui, je pense que c'est surtout de protéger Israël et aussi d'envoyer un message fort au gouvernement du Liban, en fait, qui s'était engagé à reprendre le pouvoir sur l'ensemble de son territoire et le monopole des forces armées. Je pense qu'il y a une manœuvre politique plus pour mettre des pressions sur le gouvernement libanais parce que les Israéliens sont parfaitement capables de répliquer au Hezbollah.
Oui, d'autant plus on a demandé aux Libanais de quitter peut-être les secteurs plus de villes, aller dans des endroits où on ne risque pas d'être touché, tout ça. Donc, c'est un petit peu plus psychologique de ce qu'on comprend comme frappe. Est-ce que le risque à venir dans les prochains mois, ce n'est pas la politique dans tout ça, mais ce sont les courants idéologiques, peut-être même religieux, qui voudraient ne jamais freiner leur expansion?
Si on pense au mouvement islamiste, encore une fois, je pense que il y a une limitation dans ce que l'Iran peut faire, parce que bon, il y a la division entre les chiites et les sunnites là, et donc l'Iran n'est pas vraiment le représentant officiel du mouvement islamiste, mais plutôt d'une des branches. Donc ça il y a quand même des limites sur ce que l'Iran peut faire. Et donc je ne vois pas qu'il y ait de montée du courant djihadiste, rien de massif. Okay. Par d'autre part, parce qu'ils ont attaqué, l'Iran a attaqué les pays arabes voisins, ça a beaucoup miné leur crédibilité. Donc je pense qu'il ne faudra pas avoir trop d'inquiétude là-dessus.
Éric, en terminant cette excellente entrevue, tu nous avais parlé vendredi dernier de possibilités d'attentats aux États-Unis. Eh bien, ça a été fait à Austin, au Texas, un pro-iranien qui a fait 2 morts et 14 blessés dans une fusillade. Est-ce que c'est une possibilité qu'on en voit plus le conflit va s'allonger?
Ah, absolument. La seule clé que l'Iran a dans son jeu, c'est mettre des pressions politiques et économiques. Faire monter le prix du pétrole à des niveaux très élevés, où là, il y aurait beaucoup de pression sur les États-Unis pour arrêter, et aussi des pressions à l'intérieur des États-Unis pour dire que la guerre dépasse les limites de l'Iran et qu'il faut arrêter tout ça. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, c'est une autre question, mais c'est clairement dans la stratégie iranienne de tenter de mettre des pressions politiques et économiques.
Oui, je dirais d'autant plus avec les sondages qui sont sortis ce week-end où les Américains désapprouvent à 43% l'intervention en Iran. Donc, c'est une façon justement de faire plier Donald Trump.
Oui, tout à fait, parce que l'Iran, de mon point de vue militaire, est incapable de repousser les Américains, mais en utilisant une stratégie économique et politique, ils ont peut-être une chance là, de forcer l'administration Trump à arrêter les attaques et d'essayer de la voie diplomatique.
Éric Ouellet est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Merci beaucoup, Éric, pour ton temps précieux, et c'est certain qu'on se reparle cette semaine.
D'accord, à la prochaine.
Merci, Éric Ouellet, toujours intéressant à entendre. Ce que je retiens, Pascal, c'est que ça va peut-être prendre plus que 4 à 5 semaines, comme Donald Trump l'avait dit.
Surtout si on arrive en matière économique, mais peut-être un peu moins en matière militaire, si on le veut, de cette manière-là. Est-ce qu'on va continuer? Oui, mais peut-être pas aussi longtemps en matière militaire versus de prendre des stratégies économiques. On parle du pétrole, on parle de l'armement et tout ça. Mais l'Iran, puis on l'a fait répéter 2-3 fois, l'Iran est un peuple résilient et pas nécessairement très prêt en offensive militaire. Israël est l'une des plus grandes forces technologiques qui existent dans le monde. Puis on sait maintenant, la guerre, comment elle se fait? Bien, elle se fait aussi en partie de façon technologique. Ça doit faire peur, je pense, à l'Iran et groupes alliés et tout ça. Puis les États-Unis aussi, on en a quand même beaucoup dans la poche. C'est plus la place du Canada, moi, que je vais surveiller dans les prochaines heures, mais plus dans la prochaine semaine. Je pense qu'on va être capable de se fixer un peu, parce qu'on n'est plus aussi attaché en termes de défensive aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump. Je pense que ça va être très intéressant à suivre.
Ouais, c'est pendant que je fais même 2 $ à mettre. Moi, je pense que Mark Carney va continuer son soutien à Donald Trump, pas mal certain de ça, compte tenu que le régime iranien là, était un régime qui était décrié mondialement pour être à l'encontre de son peuple. On l'a vu lors des dernières manifestations.
Il pourrait peut-être juste faire attention dans la manière dont tu vas le faire, peut-être un peu moins agressif ou encore positionné qu'en fin de semaine si jamais la matière économique entre en ligne de compte.
Toi, t'étais froissé par ça? Moi, ça me froisse pas.
Non, pas du tout. J'étais surprise. Surprise parce que ça positionne Mark Carney dans un air d'aller beaucoup plus militaire, donc celui que les États-Unis ont choisi, ce qui n'est pas nécessairement la reconnaissance du Canada depuis toujours en termes de guerre. Fait que c'était quand même quelque chose d'un peu plus prononcé que ce qu'on a vécu auparavant dans cette ère-là qui est plus particulière avec le Moyen-Orient. Et au niveau économique, on essaie le plus possible de ne pas avoir de répercussions. Fait qu'en ayant des propos aussi clairs, ça fait en sorte qu'il y en a qui pourraient se retourner vers nous en disant « ben vous appuyez tellement que vous aussi, vous aurez ces conséquences-là ». En même temps, le prix du baril, le baril Brent, qui a énormément monté, les prix sont fixes. Ça va être pour tout le monde. Là, ça va être des impacts économiques mondiaux. Mais c'est plus à ce niveau-là que je le trouvais plus prompt qu'on a déjà vécu des prises de parole de Mark Carney ou de d'autres premiers ministres auparavant.
Parlant du prix du pétrole, on va en parler avec Gabriel Jugard dans quelques instants.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
En attendant de parler à Gabriel Jugard, Pascal CV, tu veux bien nous faire les manchettes principales de l'actualité.
On s'en va ailleurs que ce qu'on vient de discuter, effectivement. Juste dire, par contre, que Trump a refusé d'exclure l'envoi de troupes au sol, ce qui ferait en sorte de devenir un combat beaucoup plus militaire que juste un combat de « je vous avertis que » avec drones et peut-être... armement au niveau de l'air et de la mer. Procès pour diffamation. Il y en a un qui revient dans l'actualité, c'est le cardinal Ouellet. Il veut rétablir son honneur et comment il va le faire, c'est en justice. Donc, il y a une femme qui alléguait avoir été agressée sexuellement par l'archevêque, que vous connaissez très bien ici à Québec et tout ça. C'était dans une action collective. Là, on ouvrait le procès civil en diffamation aujourd'hui et le cardinal Marc Ouellet veut laver sa réputation et donc réclame 100 000 $ à cette femme-là qui allègue dans l'action collective avoir été agressée sexuellement. Elle était à ce moment-là une employée pastorale. Elle s'appelle Pamela Grolo et c'est à elle que voit le procès civil visé. Ancienne agente de pastorale, comme je vous disais, mais c'était au diocèse de Québec. Et ce qu'on dit au niveau du cardinal, c'est qu'il n'a pas du tout l'intention d'avoir des bénéfices matériels, que ça ne l'intéresse pas, mais le rétablissement de son honneur et de son intégrité, ça, c'est important. Pour lui. Des nouvelles de Claude Dubois, il a été opéré pour un cancer des cordes vocales. Ça s'est fait le 27 février dernier. Donc, l'auteur, compositeur, interprète de 78 ans va bien, on dit dans les circonstances. On a des nouvelles au niveau de son agence. Dossier qui fait beaucoup jaser, habituellement au printemps, ce sont les zones inondables hein, au Québec. On a eu des catastrophes quand même assez poignantes, économiquement aussi dans les dernières années. Puis on se disait... prêt à peut-être créer des cartes de zones inondables. Mais là, on est sans nouvelle entente avec Québec et les MRC refusent de créer ces cartes-là. C'était dans le cadre d'un nouveau cadre réglementaire qui est entré en vigueur hier et qui va devoir s'appuyer sur les anciennes cartographies dans ces secteurs-là avant qu'on ait des ententes conclues.
On s'en va rejoindre Gabriel Jugard, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, est-ce qu'avec le conflit en Iran, je dois craindre de voir le litre d'essence aller tout près du 2 $ du litre?
Ben, malheureusement, je pense que c'est assez clair qu'avec le conflit en Iran, le coût de l'essence devrait augmenter, notamment à la vue de l'augmentation du prix du baril de pétrole. Donc, on s'en sort pas, malheureusement. Je pense que tout le monde l'avait compris en fin de semaine quand on a vu là, l'attaque qui s'est passée en Iran. Faut comprendre que rapidement, l'Iran, la façon qu'elle a réagi, c'est quand même là, d'attaquer le Qatar, d'attaquer également l'Arabie Saoudite. Fait que, tu sais, le Qatar, c'est quoi? C'est l'un des deux plus gros exportateurs de gaz naturel liquéfié, là. L'Arabie Saoudite, c'est au niveau du pétrole. Fait que c'est pas pour rien que ce matin, on se réveille et wow, augmentation du prix du baril du pétrole. En Europe, c'était 45% d'augmentation sur le prix du gaz à un moment donné. Donc, ah ouais. Il y a un impact important là, sur l'énergie mondiale.
Il n'y a pas de doute. Est-ce que le côté économique peut être un côté qui va faire flancher Donald Trump à un certain moment? Parce qu'on parle d'inflation qui pourrait aller au-dessus du 4% aux États-Unis. Donc, je reviens au sondage que je parlais avec Éric Ouellet où les Américains sont en défaveur et c'est 3 sondages qu'ils disent. Est-ce que les Américains se mettent à tirer le diable par la queue, comme on dit? Ça peut faire flancher le président?
Ben, c'est ça qui va arriver, là. C'est parce que si on a une augmentation importante du prix du baril du pétrole, ben, par extension, les Américains de partout aux États-Unis vont aller tanker leur voiture, puis ben, ça va coûter plus cher, là, puis de beaucoup le gallon. Donc, il va y avoir un impact. Il y a un impact sur tout. Parce que, tu sais, il faut comprendre que l'alimentation, il n'y a plus personne qui livre ça à vélo, là, sauf peut-être certaines personnes sur le plateau Mont-Royal, là, mais globalement, c'est en truck que ça se fait, là. Puis ça prend du diesel, ça prend de l'essence. Ben, ça va augmenter le coût de tout. Donc, effectivement, les Américains ne seront pas contents nécessairement de cette approche-là. A priori, avant que l'essence augmente, peut-être qu'ils vont se dire, ben regarde, là, c'était un dictateur tout croche. Ça se peut qu'il y en a qui se disent, ben ça me dérange pas trop, mais au final, quand ça commence à attaquer notre portefeuille, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la façon dont on vote et ça pourrait peut-être impacter également là, les élections de mi-mandat. Donc effectivement, JF, t'as raison de le mentionner, ça peut avoir un impact sur l'inflation, puis ça va faire mal. Au Canada, il faut juste se rappeler, au Canada, on a une industrie pétrolière très forte. Donc en tant que consommateurs, ça fait mal. Sur le plan des revenus gouvernementaux, il faut rappeler que ce soit l'Alberta, que ce soit le gouvernement fédéral, il peut y avoir un impact positif là-dessus. Mais soyons clairs, là, nous autres qui faisons des voyagements, là, Montréal-Québec, par exemple, ça va coûter pas mal plus cher.
Mais ça, Gabriel, c'est un point intéressant aussi parce qu'en pandémie, il y a eu des répercussions au niveau de l'inflation, puis ça n'a pas été aussi impacté et grand qu'on le pensait parce que le prix du baril du pétrole était resté quand même assez bas. Ce qui fait en sorte qu'on la connaît, l'inflation, on y goûte avec l'alimentaire et autres, mais pas à l'échelle qu'on aurait dû y goûter si le prix du baril de pétrole était un peu plus haut. Il est plus bas dans les dernières années que ce qu'on aurait pensé. Là, avec les répercussions au Moyen-Orient, il risque d'augmenter. Tu parlais d'inflation au niveau mondial, mais ce qu'on risque aussi de regoûter, c'est des retards dans les chaînes d'approvisionnement. Et ça touche l'économie centrale mondiale, encore une fois, automobile, électronique, agroalimentaire. Il y a quelque chose là aussi.
Eh bien, il y a quelque chose là, absolument. Puis tu as raison de dire que dans les dernières années, Pascal, l'inflation, notamment au niveau de l'essence, était moins forte. Là, quand on s'en va sur Statistique Canada puis on regarde la progression des prix, des données qui sont accessibles, on voit là qu'en janvier 2026, on paye moins cher le litre d'essence qu'en janvier 2025. Donc, il y a même une diminution là, la réduction du prix à la pompe. Par contre, je pense que tout le monde va se rappeler en 2022, là, je fais un gros saut en arrière, là, mais avec l'invasion en Ukraine, là, quand vous allez faire votre plein de char puis ça coûtait plus que 2$, ça avait frappé l'univers, là, mon Dieu. C'est vrai que les conflits là, puis la géopolitique peut avoir un impact très important sur le prix de l'énergie. Puis là, ben, je dis pas qu'on s'en va vers ça, mais effectivement qu'on pourrait voir quand même une augmentation assez importante du prix à l'essence. Donc concrètement, ça peut faire mal au portefeuille. J'en profite parce qu'au Québec, nous, on a une bonne grosse taxe sur l'essence provinciale. Puis le gouvernement, il aime cette taxe-là, 19,2 cents le litre. Si ça commence à augmenter, là, la taxe sur l'essence, j'avais trouvé ça très dommage en 2022 que le gouvernement du Québec s'est dit... Moi, je bouge pas. Moi, c'est comme ça, puis je ferai rien. Tandis qu'en Ontario, on l'avait suspendu. Il était 9 cents, mais on l'a suspendu. En Alberta, on l'a suspendu et ça a donné plus d'abordabilité pour les conducteurs qui en arrachent. J'espère que si ça arrive, le gouvernement du Québec va avoir l'ouverture et la présence d'esprit de comprendre que nous, en tant que consommateurs, on a besoin d'un peu d'air. Si l'augmentation de l'essence est importante, on dépense le 1,60 $ le litre, il va falloir là, qu'on agisse sur la taxation. Là.
Ah, Gabriel Giguère, je t'apprécie tellement lorsque tu ramènes toujours ça à notre gouvernement et leur pouvoir qu'ils ont de nous permettre d'avoir plus d'argent dans nos poches. On parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, je t'amène sur un autre sujet. Grosse visite de Mark Carney qui est passé sous le radar en raison de ce qui se passe à l'Iran en Inde. On a tissé des accords commerciaux, notamment pour le gaz naturel, notamment pour l'uranium. Qu'est-ce que tu retiens de cette visite-là et de ces accords-là de Mark Carney?
Je pense que c'est une bonne chose. Là, tu sais, l'Inde, c'est vraiment une puissance mondiale en pleine ascension. On consomme beaucoup d'énergie. Puis quand on regarde ça à froid, qu'est-ce qu'on consomme en Inde? 46 % de leur bouquet énergétique, c'est du charbon. 27 % du pétrole. Donc, tu as plus que 70 % que c'est pétrole et charbon. Ils ont besoin de réduire leur GES en matière de bouquet énergétique. Le Canada, enfin en 2025... Et ça, c'est tardif, là, soyons clairs, ont leur premier port terminal pour exporter du gaz naturel liquéfié dans l'Ouest canadien. Et là, on se dit, ben, on va en avoir d'autres qui vont sortir. On a besoin d'exporter ça en Inde. Ils veulent plus d'énergie. Le gaz naturel, c'est deux fois moins polluant que le charbon. Et leur mix énergétique est composé seulement à 5 % de gaz naturel. 5 % au lieu de 47 % de charbon. Je pense que le Canada a de la place pour exporter et pour contribuer au développement de l'Inde puis à l'enrichissement canadien.
Est-ce que Mark Carney est en train de jouer ses billes pour faire en sorte que peu importe le prochain gouvernement au Québec, on n'aura pas le choix de développer le fameux projet GNL Québec?
Ben, écoute, c'est sûr qu'aujourd'hui, parce que là, on parle de l'Inde, puis c'est super intéressant parce que ça nous démontre à quel point on a une demande importante sur le plan énergétique, notamment du gaz naturel. Mais si je fais un petit parallèle rapide avec notre premier sujet, l'incertitude géopolitique démontre aussi l'importance pour des partenaires, notamment européens, d'avoir d'autres, d'une diversification des approvisionnements. Parce que si vous vous approvisionnez juste au Qatar, ben vous avez le détroit d'Ormuz, puis vous avez l'Iran qui va peut-être vous bombarder comme on a vu hier matin ou ce matin. ben, ça fait en sorte que vous avez besoin de ressources naturelles provenant de partenaires fiables. Les États-Unis seulement, c'est un partenaire fiable, mais il y a de l'incertitude. Le Québec est beaucoup plus fiable, je pense, pour des partenaires européens. Donc, pour répondre à ta question, hein, j'ai fait un long détour, mais là, on revient rapidement. Je pense que c'est important. Je pense très certainement que le prochain gouvernement du Québec, lui, il arrive en poste là, et il a une occasion en or pour nous enrichir collectivement et répondre à la demande mondiale.
Puis l'Inde, qui est la cinquième économie mondiale, qui est le pays le plus peuplé au monde. On parlait de 1,4 milliard, si je me rappelle bien, lorsqu'on a fait l'annonce. 1,4 milliard d'habitants. Puis la population est vraiment jeune, ce qui fait en sorte que c'est une main-d'œuvre qui est abondante. Marché intérieur immense. Alors, c'est un partenaire fiable pour les prochaines années. Mais je fais une autre parenthèse avec ce que tu as dit, puis le conflit qu'on connaît actuellement au Moyen-Orient, dont on parle depuis plusieurs heures. L'Inde s'est prononcée et a appelé au dialogue pour résoudre la crise au Moyen-Orient dans les dernières heures et le demande de façon claire, nette et précise parce que pour eux aussi, ça augmente les tensions et ça amène des problèmes sous-jacents aussi dans leur pays. Puis ils voulaient être en croissance économique importante. Puis ça, je pense que ça peut créer un conflit. Quand l'Inde se prononce dans des tensions internationales, ça veut tout dire.
Je pense qu'effectivement, ça démontre là, leur volonté à de la stabilité, parce que qui dit stabilité dit bon développement économique aussi. Là, c'est sûr que quand on est en guerre, c'est pas intéressant comme dynamique. Et donc, Mark Carney qui s'en va en Inde, là, ça fait partie d'une vision beaucoup plus large que juste l'Inde et le Canada. Ça fait partie de la vision, là, on s'en est parlé beaucoup en 2025, là, mais de se dire il faut diversifier nos partenaires commerciaux, parce que 3 $ sur 4 d'exportés, hein, dans matière de valeur, c'est aux États-Unis. Donc l'objectif, c'est de doubler les échanges commerciaux avec l'Inde, mais ça, plus largement, c'est également doubler l'ensemble des exportations pour réduire la dépendance. On le sait qu'au Canada, on exporte beaucoup d'énergie comme le gaz, le pétrole. On exporte également des produits, des minéraux critiques, mais aussi de la mine. Donc, il faut vraiment s'assurer de miser sur ces partenaires commerciaux-là parce que ça nous permet d'avoir plus de débouchés, mais ça prend plus d'infrastructures. Donc, il va falloir en construire des pipelines, il va falloir en construire des terminaux de gaz naturel liquéfié. Et ça, va falloir que le gouvernement... je pense que le gouvernement du Canada commence à le comprendre, là, l'urgence
vraiment
de la chose. Mais le gouvernement du Québec, on est où? Je l'attends.
En plein ça, le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Colombie-Britannique également. Gabriel Jugas, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu es analyste senior politique pour l'Institut économique de Montréal. On se tient au courant parce que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de tergiversations sur les marchés cette semaine.
Absolument, bonne journée.
Salut Gabriel, bonne journée. Gabriel Jugas qui fait entendre sur nos ondes normalement le jeudi pour une chronique en lien avec un sujet que l'Institut économique de Montréal met dans l'actualité. Mais là, aujourd'hui, c'est très important de lui parler avec le coût du pétrole.
Je trouve ça le fun aussi qu'on ait glissé un mot sur l'Inde. Hein. C'est une des plus grandes armées au monde qui existe. On possède l'arme nucléaire au niveau de l'Inde, ce qui est pas mal discuté.
Oui, oui.
Puis on fait jamais le petit croche vers eux. Hein.
On a fini les déguisements à Justin Trudeau, puis on fait de la business. Parle-moi de ça.
Influence stratégique. Aussi, ouais. En Asie. Puis, ils ont des rivalités qui ressemblent à celles des États-Unis, voire aux nôtres. La rivalité est quand même importante avec le Pakistan, mais avec la Chine aussi. Fait que ça nous fait un allié aussi idéologique.
Exactement.
Qui est important.
Après la pause à l'émission, on en jase très, 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 très courte pause. C'est Luc la Liberté. Là, on a fait le tour avec Éric Ouellet de comment ça se passe au niveau militaire. On a fait le tour avec Gabriel Giguère du conflit Iran avec Israël et États-Unis, les répercussions économiques. Là, on va parler de politique intérieure américaine avec Luc la Liberté, excellent chroniqueur sur nos ondes. Dans un instant, Boulevard 102 à l'émission, on en jase. On en jase.